Il y a une dizaine de jours, je lisais un texte dans la Bible et c'était le même jour ou le jour après que le Hamas avait déclenché des hostilités envers Israël avec les roquettes. Et on le sait, le Hamas, c'est une organisation islamiste dont le but dans les statuts, c'est l'éradiction d'Israël, mais totale, y compris Tel Aviv, rien. Voilà. Et moi, ça me faisait mal, j'entends quand on entend ça, aussi pour les habitants de ce pays. Et puis, le texte que je lisais, entre autres, hein, « Je vais accomplir devant tout ton peuple des merveilles qui ne se sont produites dans aucun pays ni chez aucune nation. » Il est parlé d'Israël. Et là, j'ai pris le seul contact que j'ai sur WhatsApp de quelqu'un qui habite cette terre. Et puis, j'ai écrit, voilà, « Cher Nancy, chère famille, chère communauté messianique, nous sommes de tout cœur en pensée avec votre situation éprouvante. » Et puis, j'ai dit, je partage le texte que je viens de lire. Et c'est ma prière que Dieu accomplisse ses promesses pour Israël et pour le monde entier. Voilà. Un jour, c'était plutôt une nuit, un homme dormait et a fait un rêve. Et dans ce rêve, il a été réveillé par un personnage. Hey, réveille-toi ! Qu'est-ce que tu vois là ? Il se réveille, il se frotte peut-être les yeux. Il dit, ouais, bah, c'est un chandelier. Il y a, justement, c'est un support avec 7 lampes à huile. C'est un chandelier, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis le personnage lui dit, quoi ? Tu ne sais pas ce que ça veut dire ? Ben non ! Mais je vais te le dire. Et il lui a dit ce que c'est en une phrase. Il n'y a même pas de verbe, il y a 7 mots. À l'image des 7 branches du chandelier. Je vous fais une traduction littérale. Des fois, un mot, ça fait 2 mots en français. Pas. Par puissance. Et pas. Par force. Car. Avec mon esprit. Ce texte, cette histoire se trouve dans la Bible, dans Zacharie 4. L'homme qui rêve, c'est Zacharie, le prophète, le personnage, c'est un envoyé de Dieu, et celui qui donne cette réponse, c'est l'Éternel. Je vous relis peut-être de manière, dans une traduction un petit peu plus audible, hein. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'autre jour, j'ai demandé à ma petite fille, j'ai dit, mais Pentecôte, ça veut dire quoi ? Le Saint-Esprit, qu'elle m'a dit. Elle a raison. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Le Saint-Esprit, mais on va lire peut-être le texte. Léa, il y a une semaine, vous voyez, j'étais là, Léa a lu l'histoire de l'Ascension et puis des jours qui ont précédé ce jour de la Pentecôte. Et la suite, enfin une partie de la suite, c'est écrit... Donc, le nombre des personnes, donc, ils étaient réunis, hein, les premiers chrétiens, la première église, Jésus est parti, ils sont là seuls et ils sont ensemble et ils prient. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et voilà, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ils sont descendus dans la rue, en fait, ils se sont exprimés dans d'autres langues, mais ces langues étaient comprises, parce qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup d'étrangers, et les gens étaient étonnés, ils ont dit, mais ils parlent dans notre langue, comment est-ce que c'est possible ? Et ça frappait vraiment les personnes, et Pierre a fait un discours, un appel à ces milliers de gens qui étaient là, et il y a 3000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Ceci pour dire... Il y a un avant et un après. l'esprit. Et je vous ai parlé du chandelier. On peut dire le chandelier. Ça veut déjà dire quoi, le chandelier? Voilà. Ni par force, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Le chandelier, on peut dire, a été placé au milieu de l'église. Et il y a eu une différence. Mais je reviens quand même à... je reviens quand même à la question des départs, Pentecôte. Pentecôte, ça veut dire quoi, mais du point de vue étymologique? Alors, ma petite fille ne m'a pas répondu, mais vous, vous allez me répondre. Qu'est-ce que ça veut dire, Pentecôte? Vous ne savez pas? Ça veut dire... Ah, Bruno, 50. Voilà, ça veut dire 50. 50, en fait, 50 jours, en fait, 50e jour. Alors, écoutez bien, il y a 50 jours, ici, je pense ici, qu'est-ce qu'il y avait? Il y a 50 jours, vous vous souvenez? Pardon? Non, mais ici, là, cet endroit-là, il y avait une famille qui était enchaînée, puis qui gémissait. Oh, et puis l'orateur qui était là, heureusement, il avait une pince, et il allait, et il a cassé ses chaînes, elles ont été libérées. Ça vous revient? Il y a 50 jours, parce que c'était pour illustrer Pâques, la sortie d'Israël, des enfants d'Israël, de pays, bon, d'Égypte. Ils étaient en esclavage, vous le savez, et ils ont mis du sang d'agneau sur les linteaux de leur porte, et l'ange destructeur qui est venu pour les libérer a passé par-dessus, ils n'ont pas été touchés, mais eux ont pu s'échapper de cette situation. Et quelques jours après, donc cette sortie d'Égypte, Dieu a parlé à Moïse et il a dit, oui, mais vous vous souviendrez de ce jour-là. Chaque année, vous vous souviendrez et vous le direz à vos enfants. Et à quel moment? Eh bien, le mois où vous êtes sorti, on va dire que c'est le premier mois, c'est des mois lunaires de 28 jours. Hein. Et puis le 14, c'est dans la pleine lune. Le 14, eh bien, c'est d'ailleurs là qu'ils sont partis. Alors, c'est le 14 que vous fêterez cet événement. Et tout de suite, Dieu continue à dire, et vous compterez 7 semaines. Et après ces 7 semaines, il y aura de nouveau un jour que vous allez marquer et que vous allez vous souvenir. Ce qui est un petit peu étonnant en lisant cette deuxième fête, puisque la première, c'est Pâques. Pâques, ça veut dire Pessah, c'est passé en hébreu, en-dessus de la maison, ça a un sens, ce nom. Mais cette deuxième fête, c'est quoi qu'on fête, au fait? Ah ben, c'est les semaines. Le nom de cette fête, c'est la fête des semaines, parce qu'on a attendu 7 semaines. En hébreu, c'est Shavuot. Et puis, les juifs, par la suite, je pense que ça démontre que ce n'était pas très clair, ont pensé et décidé de dire, mais finalement, c'est un peu l'époque où on a reçu la parole de Dieu, où Dieu a donné les tables de la loi, ce qu'on appelle les 10 commandements, mais si on regarde bien, c'est écrit les 10 paroles. À quelque part, ils mettent l'accent en disant, bon, on a reçu la parole de Dieu, écrite. Et par extension, je dirais, on a reçu ça. Et cette fête des semaines, c'est ça qu'elle exprime. Et d'ailleurs, contrairement aux autres fêtes, où je peux dire le 14e jour du premier mois, c'est Pâques, cette fête-là, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date. Les autres fêtes, dans la Bible, il y en a. Pas là. Pourtant, on sait que c'est 7 semaines après. Et donc, les Juifs ont dit, oui, mais l'important, c'est de se préparer, d'attendre, de compter, c'est écrit « compte » les semaines. C'est un petit peu comme le calendrier de l'Avent à Noël. Les enfants, chaque jour, ils ouvrent une porte. « Ah, c'est bientôt Noël !»« Ah, c'est bientôt Noël !» C'est un peu comme ça. Et puis, eux, ont dit, mais on ne va pas se souvenir de ça en disant « Ah, il y a 3000 francs, on a reçu la parole, c'était bien. » Ils vont dire « Non. » Allez, c'est comme ça on va la recevoir de nouveau. On s'y prépare, on se réjouit, le jour arrive et on lit la Bible toute la journée. Voilà, c'est comme ça, pour ceux qui, bien sûr, croyants, le comprennent. Je regarde s'il y a un enfant au milieu de nous, parce que je lui aurais posé une question maintenant, mais elle est partie. Alors, vous êtes les enfants. Et 7 fois 7, puisqu'il y avait 7 semaines, et puis que c'est 7 jours, ça fait combien? 7 fois 7 49 plus 1, parce que le long, ça fait 50. Donc, Pentecôte et la fête des semaines, Shavuot, c'est la même chose. Jésus, quand il est à la fin de son pèlerinage sur terre, au moment où on était le premier mois, le 14e jour, il a dit à ses disciples, allez préparer le repas pour se souvenir de cet événement, de la sortie d'Égypte. Et quel étonnement, nous on sait tout, pas de problème, mais imaginez quand même la surprise des participants. Jésus, il prend le pain, il prend le vin, mais oui, ça représente le sang des agneaux à l'époque. Puis il dit, mais ça c'est mon corps, ça c'est mon sang. Comment ? Eh oui, ça veut dire que ce qui s'est passé à l'époque, c'était pas le sang des milliers d'agneaux qui ont été mangés et dont on a mis le sang qui a permis la sortie d'Égypte, c'était, sans qu'il le réalise, le sang de Jésus qui a libéré de l'esclavage ce peuple d'Israël à l'époque. Mais et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas seulement le peuple sous cette époque-là, mais c'est pour le monde entier. Et Jésus est venu pour casser les chaînes, briser cette oppression dont on peut tous être touchés à un moment donné ou à un autre, de nous libérer du péché. Alors maintenant, je reviens à Pentecôte. Pentecôte, à quelque part, ils ont aussi attendu. Les disciples ont été un peu perturbés quand Jésus déjà est décédé. Jésus il leur a apparu. Et puis dans cette période, à un moment donné, Jésus leur a dit, attendez la promesse, attendez l'Esprit. Il leur a dit, vous allez recevoir une puissance. Et à quelque part, ils ont vécu un peu aussi dans cette attente. Mais ils n'ont pas attendu en restant dans leur cuisine, en allant se promener. Ils se sont retrouvés tous ensemble à prier, sans encore bien savoir qui, quoi, comment. Et ils étaient 120, si vous réfléchissez, environ 120. J'ai réalisé ou appris récemment que le chiffre 12 dans la Bible, c'est pour exprimer l'intégralité, c'est complet. Il y avait 12 tribus. Voilà, ça fait un peuple. Jésus, il a choisi 12 disciples. C'est devenu 12 apôtres. Et quand un de ses disciples s'est suicidé, pensez-y, ils étaient plus que 11. Et donc ils ont dit, mais c'est pas complet. Et ils en ont pris, rechoisi un 12e. Parce qu'il faut être 12. Et dans ce 120, c'est 12 avec un 0, ça exprime, ou ça, si ça souligne, si vous voulez, le fait qu'ils étaient, que c'était complet. Ils étaient tous là. Vous savez combien il y a de chaises ici, dans cette salle? Environ 120. Peut-être 115, après pour les autres. Hein. Voilà. Bien. Donc, Pentecôte, c'est l'Esprit. Alors, où j'en suis? Je reprends quand même un coup mes notes. Hein. Qui a dit quoi?
Non, mais on était une couleur au moins 120 chaises.
Et voilà que quelques temps plus tard, donc après qu'il y ait eu Pentecôte, quelques temps plus tard, il y a un homme qui a eu aussi une vision, un peu comme Zacharie. Et cet homme, c'est Jean, le disciple, on pense que c'est le disciple bien connu, Jean, qui était sur l'île de Patmos. C'est une île située en Grèce actuelle, sur la côte ouest. Et là, il a eu une vision qui a été... Ouais, vous le savez, c'est l'Apocalypse. Hein. Et je vous lis ce qu'il a vu. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et à Laodicée. Et donc, c'est des villes qui sont situées dans cet endroit, et Jean est sur l'île de Patmos. Alors, il entend cette voix, il entend cette instruction, et il écrit, je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et qu'est-ce qu'il voit? M'étant donc retourné, je vis sept chandeliers d'or, sept. Et il y a sept églises, c'est le signe que chaque église a le chandelier dans son église, l'église locale, c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, ce matin, en partageant ça avec vous, c'est un message, on va dire, pour nous, pour l'église, plus qu'individuellement, chacun pour soi. En tant qu'église, nous avons le chandelier. Et ça veut dire quoi, le chandelier? Ni par puissance, ni par force, mais avec l'esprit. Ce qui fait une église, C'est qu'une chose, c'est l'Esprit de Dieu au milieu d'elle. Et c'est le cas. Et voilà que donc il y a ces lettres qui sont écrites et qui sont lues dans chaque église. Et on va prendre de manière complète seulement l'église d'Éphèse. Les autres, je vais juste les mentionner. Mais l'église d'Éphèse, on va lire cette lettre qui n'est pas très longue, mais qui parle d'elle-même. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, on ne s'est pas consulté avec Ramsès, hein. Mais ce que j'ai contre toi, maintenant j'ai perdu le fil, hein, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme moi je les déteste. Moi aussi, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Voilà, il y a plusieurs éléments hein, dans cette lettre, mais même si on disait rien, je crois que ça parle tout seul. Et puis, on ne peut pas s'empêcher d'avoir été attentif ou interpellé par cette phrase au milieu qui dit « Ton amour, l'amour pour Dieu, tu as perdu ton amour, il faut le retrouver. » Sinon, et c'est on va dire terrible comme menace, c'est de dire « Le chandelier, il n'y en a plus. » Et une église qui n'a pas de chandelier, selon ici, pas un chandelier physique, hein, on comprend bien, cet esprit, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être une église, mais ce n'est plus une église aux yeux de Dieu. On peut avoir une croix, éventuellement, sur le fond de la salle, on peut avoir toute l'ambiance, mais c'est terrible. Maintenant, si on prend ces sept églises, elles l'ont encore toutes, hein, ils l'ont, ce chandelier. Ne soyons pas trop désespérés, mais ça interpelle. Hein. Donc, moi, je dirais par rapport à ces sept églises, il y en a trois, donc, qui ont, je dirais, si on dit on parle de feu rouge, feu orange, feu vert, il y en a peut-être trois qui ont un feu orange, dont celle-ci. Si ça veut dire attention, c'est bien, mais attention, ralentis, réfléchis, regarde, il faut changer quelque chose. Il y en a, je dirais, deux où c'est le feu rouge, dire stop, tu t'arrêtes, tu bifurques et tu reprends une autre direction. Puis il y en a quand même deux qui ont le feu vert en disant allez-y, tout droit, 120 à l'heure. Pas de problème, pas de souci. Alors, l'église suivante, juste pour mentionner, que je me souvienne de son nom, donc l'église de Smyrne, feu vert. Alors, on dit, ah, chic, on pourrait lire cette église, c'est super. On va essayer de lui ressembler, mais le problème, c'est que c'est une église persécutée, qui vit dans la persécution. Et ça, on n'en a pas envie, et c'est normal. Et on ne doit pas souhaiter être à sa place. Mais en tant qu'Église, ce qu'on peut dire, mais on va ne pas les oublier. Il paraît que sur la terre, sur 9 personnes qui croient en Jésus, il y en a une qui vit dans une église, dans une situation où il y a vraiment la persécution. Et je me dis, mais on pourrait s'en souvenir. Alors pour votre information, notre Église a tout récemment contacté Régis Roulet, qui travaille dans une organisation ACP, qui est en lien avec des personnes en situation de difficulté, de persécution, et on lui a demandé, mais Régis, est-ce qu'il y aurait un projet, quelque chose que tu pourrais nous soumettre pour que, modestement, mais quand même, on puisse marquer un petit soutien en tant qu'Église de Réveil de Bienne, et puis en même temps, l'occasion pour nous de réaliser qui c'est qu'on aide et que ça crée un peu aussi ce côté-là. Voilà ce qu'on peut faire par rapport à une église persécutée. Si je prends les deux autres églises, elles ont le feu orange, c'est Pergame et Thyatire. Je lis juste un mot pour chacune des deux pour attirer l'attention sur un élément. tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient, c'est le mot enseigner, qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. L'église suivante, Thyatire, reproche, tu laisses faire Jézabel et l'enseigne et égare mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'immoralité sexuelle et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Un peu le même problème. Moi, à l'époque, quand je lisais ces textes, je me suis dit, bon, nous, nos églises, ce n'est pas notre problème. On ne laisse pas venir des gens ici et enseigner ces choses-là, hein, voyons. Mais en réfléchissant, je me suis dit, oui, mais autour de nous, pas dans l'église, mais autour de nous, il y a des enseignements, des manières de penser qui sont là. Et puis c'est là que peut-être, il y a quelques semaines, dans le journal du Jura, il y avait un témoignage d'une jeune mère de famille qui a perdu son deuxième enfant dans une fausse couche. Et puis, elle donne ce témoignage, elle était, plus tard, j'attends chez le médecin, et puis elle lui a demandé au médecin, mais est-ce que l'enfant est vraiment parti? Et puis, ce médecin, certainement bien intentionné, lui a dit, mais madame, ça, c'est pas un enfant, c'est un embryon. Puis elle a dit, non, c'est un enfant. Et puis, elle a écrit un livre qui vient de sortir, donc ça se passait il y a une année, ça vient de sortir, et le titre, c'est « Accepter de te dire adieu ». Elle a accepté que son enfant parte, mais elle a dit « Mais il va à Dieu ». Et voilà, c'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est qu'un embryon, l'enseignement, voyez. C'est ça que à quoi je pense. Aussi, la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, un homme, une femme. Aujourd'hui, l'enseignement autour de nous, ça change. Et puis, une dernière chose que je mentionne comme un enseignement qui n'est peut-être pas toujours très clair. J'ai pris un livre, mais pas de souci, je ne vais pas l'ouvrir. Parce que sinon... Mais je vous lis quand même le titre, « Je vais mourir mardi 18 ». Le suicide assisté au paradis helvète. C'est un monsieur Claude Mermot à Genève qui a écrit ça et c'est préfacé par Mauro Poggia, donc c'est un politicien à Genève. Et donc ça montre que ce livre a quand même un principe, il devrait avoir une certaine notoriété. Et cet homme Claude Mermot a effectivement reçu ce message une fois de son frère. Je vais mourir mardi 18. C'était programmé par Exit. Ça a été une immense douleur. C'est raconté là-dedans et c'est des grandes réflexions. C'est un livre qui n'est pas religieux, mais j'ai rarement vu autant de références bibliques que dans ce livre. Et puis, par le hasard des circonstances, j'ai été mis en contact avec lui. Et puis, je lui ai écrit un petit mot à l'époque, c'était il y a 2 ans. Et puis, il a été très touché et il m'a répondu, de mon côté, donc, ce livre, hein, je l'ai envoyé à de nombreux correspondants qui restent muets à 80%. Je n'ai eu que 2 retours très motivés, ainsi que le vôtre. Moi, c'était le 3e, alors qu'il a été publié, ce livre. Et ça montre qu'il y a certains sujets, certains enseignements, on n'en parle pas, on ne sait pas très bien où se situer. Désolé, j'ai fait un petit peu long par rapport à ça, je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Mais on va juste passer en revue encore les 3 autres. Ça ira vite, la suivante, l'église, parce qu'on n'oublie pas qu'on en est là. Alors, après ces deux églises qui ont un feu orange, l'église de Sardes. C'est Jésus qui parle, hein. Il dit « Je sais que tu passes pour être vivant ». On imagine une église, un site internet, église vivante. On imagine les gens qui disent « Waouh, c'est une église vivante ». Jésus dit « Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort ». C'est radical, c'est violent. Donc voilà, hein, qu'est-ce qui fait qu'on est vivant? C'est le chandelier. Hein. La 6e église, enfin, vraiment l'église, feu vert, pas trop persécutée, celle qui va nous faire envie et qui fait envie à tout le monde. Et je lis ce que Jésus dit, il dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer parce que tu as peu de puissance. Ah, » je me souviens de quelque chose, hein. « Et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Ouais. Je fais ici une petite pause parce que parce que tu as un peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Et je vois que j'ai oublié quelque chose que je voulais dire avant. Et maintenant je dis non, je ne vais pas le dire parce que sinon ça va faire trop long. Mais garder la parole de Dieu, ça c'est important. Oui, je cite juste ce verset qui dit l'amour de Dieu, parce qu'on dit il faut aimer Dieu. C'est quoi aimer Dieu? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est en gardant ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Suivant les versions, il est dit « respecter les commandements », mais ce n'est pas bien traduit, je vous dis franchement. Aussi dans l'Ancien Testament, c'est garder. Garder n'est pas respecter comme on respecte le cinquantenaire. Garder, c'est le garder dans son cœur. C'est le garder pour l'observer, pour le vivre avec l'esprit, justement. Hein. On avait vu qu'il y avait la parole, mais il y a aussi l'esprit, et les deux vont ensemble. Dernière église, c'est Laodicée. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est aussi une situation terrible. Ni chaud, ni froid. Bof, ça va pas. Ça va pas. Voilà, écoutez, quelqu'un qui a lu ces lettres pourrait dire « Ouais, mais Jean-Paul, t'es pas très sympa, tu t'es concentré, comme toujours, sur le négatif, sur ce qui te va pas. » Alors qu'il y a beaucoup d'éléments positifs quand même dans ces églises. Et surtout, il y a chaque fois un appel, une espérance. Alors moi, si je ne vous ai pas tout dit ça, c'est parce que c'est déjà assez long. Mais je vais prendre quand même une parole qui n'est pas là, mais qui s'applique à toutes. Et cette parole, vous la connaissez, c'est « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai. » Des cieux, c'est adressé à Israël, mais aussi à nous, aussi à l'Église. Parce que Jésus a fondé l'Église et c'est lui qui a ajouté les 3000 qui se sont convertis, plus tous les autres, à l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu. Aussi localement, si mon peuple s'humilie, c'est pas par puissance, c'est pas par force. On s'humilie d'un principe, s'il y a quelque chose qu'on doit se repentir, eh bien on se repent, on change, prie, moi je pense aux 120, les 120 chaises là, bon c'est pas les chaises qui prient, mais si c'était plein, ce serait plein. On est ensemble et on prie, et pas seulement prier, aussi chercher. Parce que des fois, on dit, on a confiance en Dieu, on prie. Mais des fois, on peut chercher, dire, ouais, mais quoi, qui, comment, chercher. Et bien là, il y a la bénédiction. Voilà, c'est ce que j'avais à cœur pour ce matin. C'est des pensées que j'ai, c'est pas seulement depuis 2 semaines, hein, c'est même déjà l'année passée, j'avais des réflexions à ce sujet. Puis voilà, ça, je vous donne les choses telles quelles, mais que chacun tienne. Ou bien peut-être on pourrait dire, si on oublie tout, qu'on retient qu'une chose. Parce que des fois, moi je rentre à la maison, c'était quoi le culte? Oui, je ne sais plus très bien. Alors, admettons, ben, vous vous rappelez du chandelier, c'est tout. Puis vous vous rappelez du chandelier, et quand même la signification, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Que Dieu nous bénisse tous en tant qu'Église.